Radio Estable.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Les jeunes de cette génération et nous les femmes, nous sommes unis, nous exigeons un gouvernement civil et que les femmes occupent 50% des sièges.
Des jeunes en sitting dans la rue, jour et nuit, pour nous, ce sont des choses que l'on connaît, que l'on fait surtout sans crainte. Là, c'est au Soudan que ça se passe, avec une jeunesse qui ne veut pas se faire voler sa révolution en cours. Et ce sera l'escale reportage d'Un jour dans le monde, sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, dans un mouchoir géographique ce soir, au Sri Lanka, en Inde et au Pakistan. Le Monde selon Trump, saison 3, avec Grégory Philippe. C'est notamment l'art du surnom donné à chacun de ses adversaires politiques par Donald Trump. Et puis, Le Monde à l'envers de Jean Marfour, quand ce sont des Bangladais qui se noient entre la Libye et l'Italie. Qu'est-ce que ça dit du parcours de fou à travers le globe de ces gens pour venir jusqu'en Europe? Qu'est-ce que ça dit de nous aussi quand ils meurent? Mais avant, c'est en Irlande que nous allons. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
On a reparlé de l'Irlande, évidemment, récemment à cause du Brexit, le gros point noir de la frontière. On va forcément y revenir, mais on a peut-être un peu passé vite sur la mort de cette jeune journaliste au mois d'avril dernier à Londonderry. Une mort revendiquée par le nouvel IRA, qui a parlé d'accidents malheureux, mais qui secoue à nouveau l'Irlande du Nord, plus de 20 ans après les accords de paix. Bonsoir Philippe Covey.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en civilisation irlandaise et membre du comité éditorial d'études irlandaises. D'abord, est-ce qu'on peut situer la nouvelle IRA? C'est quoi, j'allais dire, c'est combien de divisions? Ça veut dire combien de personnes, cette affaire?
Alors, c'est très difficile à estimer, puisque par nature, c'est une organisation clandestine. C'est une tentative, si vous voulez, on estime peut-être à plusieurs centaines de personnes, mais c'est très compliqué d'être précis. C'est une tentative d'unifier plusieurs groupes paramilitaires qui sont en désaccord avec le processus de paix dans lequel participe le grand parti républicain et historique qui est le Sinn Féin.
Mais est-ce que ce sont des vieux de la vieille, je vais le dire en souriant, mais c'est pas drôle, une espèce de reconstitution de Ligue dissoute en quelque sorte, ou est-ce que ce sont de jeunes recrues au fond et intéressés par quoi 20 ans après?
Alors c'est un curieux alliage. Il y a des vieux de la vieille, comme vous dites, c'est-à-dire des anciens qui sont en désaccord avec les décisions prises au moment du processus de paix par le Sinn Féin. Et ces anciens ratissent assez large, notamment chez les jeunes, dans les quartiers pauvres. Et ce sont des jeunes qui sont principalement nés après le processus de paix, depuis le processus de paix, donc qui n'ont pas connu les troubles et qui ont peut-être une vision un petit peu romantique, un petit peu idéalisée de l'action révolutionnaire violente et armée.
Et on va y revenir parce qu'on va essayer de comprendre aussi pourquoi c'est à Londonderry qu'il se passe des choses particulièrement importantes, avec des soutiens, sans soutien. Que dit le Sinn Féin par exemple? Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement dangereux ou pour l'instant, au fond, militairement anecdotique, on va le dire comme ça?
C'est très difficile de savoir. Il y a, si vous voulez, en permanence depuis la paix, il y a une sorte de violence de basse intensité permanente dans certains quartiers. Et puis, avec des coups d'éclat de la part de certains groupes ou de certaines personnes. Donc, le dernier coup d'éclat, c'est la mort de Lira McKee. Donc c'est très difficile d'évaluer la capacité de déstabilisation qu'ils ont. Elle est certainement assez faible, mais à force de maintenir un niveau de tension, un niveau d'instabilité comme ça, notamment dans certaines zones, parce que c'est souvent très géographique, on peut quand même estimer qu'il y a un danger.
Parce que au fond, nous, on a le sentiment, à cause effectivement de la mort de cette jeune femme qui a recrudescence aujourd'hui des actions, mais au fond, ce que vous dites, c'est que le mouvement, toute cette violence à bas bruit, au fond, existe, n'a jamais réellement cessé, en fait.
Non, elle n'a jamais réellement cessé. Il faut replonger peut-être plus de 20 ans en arrière, mais dès le mois d'août 98, c'est-à-dire seulement quelques semaines après l'accord de paix, il y avait eu un attentat le plus violent des troubles qui avait fait plusieurs dizaines de morts à Houma. Et c'était un attentat qui avait été perpétré par un groupe qui était en désaccord avec l'idée même d'une négociation avec la Grande-Bretagne.
Il y a un journaliste du Sunday Times qui a pu leur parler. Je ne sais pas si vous avez lu cette interview qui a été publiée il n'y a pas si longtemps, cachée dans une voiture. Enfin, on a l'impression qu'il y a tout le folklore lié à l'ancien IRA, en fait, a été remis au goût du jour d'une certaine façon lorsqu'ils voient des interlocuteurs.
Ils se perçoivent eux-mêmes, ils s'identifient eux-mêmes comme les héritiers de l'IRA. C'est-à-dire pour eux, le Sinn Féin sont les traîtres. Donc eux ne veulent même pas s'appeler la nouvelle IRA, ils veulent s'appeler l'IRA.
D'ailleurs, oui, c'est comme ça qu'ils se définissent. Oui. Aujourd'hui, Philippe Covey, 20 ans après les accords, qu'est-ce qui reste du séparatisme catholique-protestant aujourd'hui quand on se promène... Alors on va faire la différence entre Belfast et Londonderry peut-être. Quand on se promène à Londonderry, puisque c'est là qu'ont eu lieu ces incidents-là, qu'est-ce qu'on voit physiquement en fait ? Est-ce que les murs désormais sont dans la tête ? Est-ce qu'il reste des divisions qui existent en fait ?
Il reste d'énormes divisions, à la fois dans les têtes et malheureusement aussi physiquement. C'est-à-dire la principale forme de ces divisions, manifestation de ces divisions, c'est la ségrégation résidentielle. Les populations vivent dans des quartiers quasiment exclusivement de leur religion. Londonderry, c'est un cas, c'est certainement le cas le plus typique. Et le quartier du Craigan où a lieu cet attentat en est un autre exemple. Donc, il reste malheureusement certains signes de la division, de la ségrégation sont toujours là.
Mais si 20 ans après, ces signes sont encore là, aussi prégnants, j'ai envie de dire la faute à qui ? C'est-à-dire à quel moment le mélange n'a pas pu se produire ? À quel moment on a laissé perdurer cette situation-là ? Et qui ?
Alors c'est un grand débat.
Je vois sourire. Pardon,
oui, parce
Philippe
que c'est un grand débat entre universitaires. Ouais. Moi, je cite de ceux qui croient que le processus de paix lui-même n'était pas assez ambitieux. C'est-à-dire que c'est un processus de paix qui a cherché à mettre en place un système politique où les deux communautés sont obligées de coopérer à l'échelle politique, à l'échelle institutionnelle. Mais tout cela est organisé de telle sorte que chacun arrivant au pouvoir ne fait que défendre sa communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne qui a un projet commun. Donc, d'ailleurs, ce système politique s'est effondré en janvier 2017, ce qui prouve bien que ce système ne fonctionne pas. Il n'a jamais pu être rétabli depuis. Donc, à mes yeux, selon mon analyse, c'est le système même, c'est le modèle lui-même qu'on a inventé, qu'on a mis en place en 1998, qui est certainement en cause.
Et depuis janvier 2017, d'ailleurs, au fond, qu'est-ce qui se passe politiquement en Irlande du Nord ? On est dans une espèce de vide politique, en fait, non ?
Alors, on est dans un vide politique. Il n'y a plus d'institution, c'est-à-dire que c'est l'administration qui gère les affaires courantes. Il n'y a pas de parlement qui délibère, il n'y a pas d'exécutif. Officiellement, les deux grands partis de chaque côté, majoritaires de chaque côté, négocient pour essayer de recréer ces institutions, se mettre d'accord. Ils n'y arrivent pas. Pour des tas de raisons. Une des raisons, c'est en particulier le Brexit qui accentue les divisions sur le statut de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
Juste avant d'y aller, les enfants du processus de paix aujourd'hui, Philippe Covey, qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils font en fait ? Toute cette génération-là qui n'a pas connu cette période-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle vit dans le souvenir de ça précisément ? On parlait de Londonderry tout à l'heure, c'est l'un des foyers vraisemblablement de ce nouvel Irak qui ne veut pas s'appeler nouveau. Ça reste l'une des villes où le chômage est le plus dément en Angleterre, puisqu'on est là en Irlande du Nord.
En Grande-Bretagne, en Royaume-Uni.
Oui, c'est ça.
Derry, c'est vraiment une ville plutôt pauvre. C'est la deuxième ville d'Irlande du Nord. Ouais. Elle est à la frontière. C'est une ville traditionnellement pauvre. Elle a perdu beaucoup de... Le peu d'industrie qu'elle avait, qui était une industrie principalement textile, a disparu avec la modernisation de ces dernières décennies. Et n'a jamais vraiment réussi, si vous voulez, à... profiter pleinement. Belfast a réussi un petit peu à se moderniser, à s'adapter. Derry, malgré tous les efforts, qui reste aussi une très belle ville, la population reste principalement sous-diplômée, assez pauvre, beaucoup de chômage, beaucoup d'inactivité. Donc, une ville qui est quand même à la périphérie, en quelque sorte, de l'Irlande du Nord, l'Irlande du Nord étant elle-même à la périphérie du Royaume-Uni. Tout cela reste quand même socio-économiquement un petit peu compliqué.
Et c'est ça qui en fait un foyer pour ces jeunes-là de cette nouvelle forme d'IRA ou pas. En gros, désœuvrés, ne sachant quoi faire.
Derry a toujours été un foyer, beaucoup de villes de toute façon, mais Derry en particulier a toujours été un foyer de l'action violente et de l'action républicaine. Il se trouve que... La pauvreté et la misère qui règnent, notamment dans ces quartiers, alimentent le besoin d'une action différente. alimente certainement cette dissidence. Et ces groupes républicains dissidents en profitent et trouvent des jeunes recrues finalement assez facilement.
Vous nous parlez de cette Irlande du Nord par rapport à la République d'Irlande, et au fond, en vous écoutant, j'ai l'impression que la séparation est beaucoup moins nord-sud que est-ouest au fond, c'est-à-dire Derry d'un côté, effectivement Belfast de l'autre, qui a réussi à se sortir un peu de tout ça. Il y a un côté assez assez jeune, presque bobo à Belfast, quelque chose d'assez neuf en fait, dont j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il n'existe pas à Derry.
En fait, il y a quand même... Derry, c'est une petite ville. Hein. On parle dans la zone urbaine de Derry, on parle de 150 000 habitants, donc c'est vraiment petit. C'est beaucoup plus rural. C'est proche des zones aussi très rurales de la République d'Irlande, comme le Donegal, par exemple. Donc, Derry reste un petit peu une ville... c'est la deuxième ville, mais justement, c'est la deuxième ville. Ce n'est pas la première ville.
Alors, en quoi, là-dessus, effectivement, le Brexit a permis de capitaliser, on va dire, sur ces tensions-là? Enfin, est-ce que l'un capitalise sur l'autre ou inversement? Sûrement les deux, mon capitaine.
Alors, le Brexit, en quelque sorte, ça ajoute de la tension à quelque chose qui n'était déjà pas très stable et pas très solide. Les deux camps, les deux communautés sont globalement d'accord pour garder une frontière ouverte, parce que chacun y trouve son compte. Mais personne ne s'entend pour savoir ce qu'on fait de cette frontière. Et donc, le fait qu'il y ait cette incertitude sur ce qui va advenir de cette frontière donne à ces républicains mécontents du processus de paix, qui en plus ont la démonstration presque depuis 2 ans que ce processus de paix ne fonctionne pas, ça leur donne un avantage, au moins dans le discours, extraordinaire, qui consiste à dire, regardez, c'est une occasion extraordinaire, ils veulent à nouveau nous imposer la frontière, dont nous ne voulons pas, donc c'est l'occasion d'aller se battre, parce que la paix n'a servi à rien, la négociation n'a servi à rien, il n'y a que la violence qui va nous aider.
Et la question de la réunification est partout, et y compris depuis 2016, depuis le Brexit. On va rappeler quand même que l'Irlande a voté contre la sortie de l'Union européenne. Si on faisait un référendum aujourd'hui, sincèrement, sur la réunification de l'Irlande, si on le faisait de part et d'autre, est-ce qu'on sait ce que ça donnerait ou pas?
En Irlande du Nord, il n'y a aucune chance qu'il y ait une majorité pour la réunification. Et c'est là aussi que le Sinn Féin, donc le mouvement républicain, on va dire, officiel, et qui participe aux institutions, enfin, qui soi-disant participe aux institutions, joue un double jeu très, très, très dangereux. Il veut lui-même un référendum de réunification pour sortir de la crise du Brexit, tout en sachant très bien que ça ne pourra pas arriver, et que même si ça arrivait, il n'y aurait jamais de réunification. Donc, il va falloir à un moment que les deux communautés s'entendent sur ce qu'on fait de cette frontière, sur comment on définit son statut, plutôt que de dire on attend tel jour pour faire un référendum de réunification. Il va falloir que les deux communautés s'entendent pour créer des institutions en acceptant un statut définitif de cette frontière pour pouvoir construire quelque chose. Depuis le processus de paix, finalement, à cause de cette incertitude sur la frontière, les deux communautés ont refusé de construire ensemble quelque chose. C'est peut-être ça qui a manqué finalement à la paix depuis 20 ans.
Il y a eu cette scène que tout le monde a vue ou lue, peut-être au moment de l'enterrement de la jeune femme dont on parlait. Tout le monde était là, tous les grands dignitaires étaient là, anglais et irlandais, et on les a vus regarder un peu leurs chaussures, un peu gênés aux entournures. On a entendu le prêtre dire « Pourquoi faut-il un drame pareil pour que vous soyez là ?» Est-ce qu'il peut y avoir, à la lumière, j'allais dire à la faveur, à la lumière de cet événement-là, est-ce qu'il peut y avoir... Est-ce que des lignes peuvent bouger ou pas? Est-ce qu'on peut, à minima, essayer de renégocier et de s'entendre à la lumière de cet événement-là?
Personnellement, j'en doute. Ils sont très bons pour afficher une sorte d'unité quand il s'agit d'être sentimental et d'être visible. Dans la réalité, ce sont des gens qui se détestent, qui ont des projets radicalement contraires les uns aux autres, et qui, globalement, essayent d'utiliser la voie politique, les mécanismes politiques pour écraser l'autre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de construire ensemble, il s'agit de faire en sorte que l'autre n'ait pas gain de cause. Et le jeu politique est basé sur cette logique-là. Et malheureusement, tout pendant que cette logique-là sera au cœur du jeu politique, je ne vois pas comment l'apparente unité au moment des cérémonies religieuses et malheureusement des cérémonies funèbres pourra devenir une réalité politique.
Mais du coup, est-ce qu'on craint réellement un retour, je ne sais pas si on peut parler d'affrontement, allons-y comme ça, est-ce qu'on peut parler d'un craindre un retour de des affrontements comme il y a 20 ans, une explosion de ce processus de paix ou pas?
À court terme, je ne vois pas vraiment de risque de retomber dans cette violence aussi forte qu'on a connue entre les années 60 et les années 90. Ce qui est dangereux, c'est que si vous voulez, à force d'avoir des crises, là, la crise qui est en cours actuellement dure depuis quand même plus de 2 ans, à force d'avoir des crises qui démontrent que le système politique ne fonctionne pas, que les communautés sur le terrain n'améliorent pas leur vie, qu'il n'y a pas de réconciliation entre les communautés, on va finalement toujours monter d'un cran. Et c'est là que c'est dangereux, c'est que finalement ça va rendre les choses, le processus politique encore plus compliqué.
Mais est-ce que ça veut dire que si ça n'est pas le cas pour l'instant, c'est-à-dire si on est encore dans du bas bruit, effectivement, avec un pic tragique comme le dernier, est-ce que c'est simplement parce que de toute façon, ce nouvel Iran n'a pas les moyens, fort heureusement, d'aller plus loin, y compris militairement, ou est-ce que pour l'instant on hésite quand même à revenir sur un mode d'affrontement?
Je pense que la nouvelle Iran n'a pas les moyens d'avoir.
Mais c'est la seule raison pour laquelle on n'est pas dans l'affrontement aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont pas les moyens pour l'instant.
Non, en revanche, ils ont les moyens de perturber le processus et c'est ça qui est peut-être très dangereux, c'est-à-dire que si régulièrement ils font un acte violent majeur, il y aura peut-être un jour où une partie des gens qui sont pour l'action politique vont revenir à l'action violente. Il y aura peut-être un jour aussi une revanche de l'autre côté. Et il est là le risque. Il est dans cette déstabilisation du système politique. Plus ce système politique est déstabilisé, plus il y a des chances qu'il soit très difficile de le reconstruire de manière stable et durable.
Et on n'y est pas encore, puisque le Brexit notamment, qui peut-être serait une manière de trancher ces choses-là, comme nous le savons, c'est pas demain la veille. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait rien.
Exactement.
Philippe Covey, maître de conférence en civilisation irlandaise, membre du comité éditorial d'études irlandaises. Merci mille fois.
Merci
de votre passage d'un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès, Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe au Soudan, un pays qui vit son printemps en ce moment et toute une génération qui n'a connu que le régime autoritaire qui campe devant la maison du gouvernement en attendant des mesures promises avec peut-être une avancée d'ailleurs aujourd'hui, on en parlera dans un instant, sous les radars et Amélie Perrier où on apprend que le Sri Lanka n'arrive pas à se rassembler 3 semaines après les attentats. Nous sommes aussi au Pakistan qui essaie de fixer très scientifiquement une date de Ramadan pour les 5 ans à venir. Le Monde selon Trump et Grégory Philips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On va parler ensemble de Chine, on va parler de colonies israélienne et aussi de surnoms, Greg.
Oui, de surnoms, parce que Donald Trump a pris l'habitude de donner des sobriquets à ses adversaires démocrates et à nous correspondants francophones aux États-Unis, ça nous donne pas mal de difficultés pour les traductions.
Allez, merci beaucoup. Bah, vous nous raconterez comment vous traduisez. Vous tiens, allez, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec des Bangladais qui meurent au large de la Libye.
Eh oui, plus personne ne parle des migrants en Méditerranée, sauf que le naufrage de vendredi dernier est très révélateur, en particulier, vous venez de le dire, sur la nationalité et l'origine de ces migrants.
Allez, à tout de suite, Jean-Marc. Le tour de la planète continue. Il passe par le Royaume-Uni avec les Falls. Exit sur France Inter.
Power!
retard, nous dit Fabrice Lègle à la réalisation. Je crois que c'est de ma faute. Allez, Falls Exit sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Dépêchez-vous, Amélie, enfin.
Ah, je cours.
Le Sri Lanka peine à se rassembler, Amélie, 3 semaines après les attentats de Pâques.
Ces attaques contre des églises ont fait 258 morts. Vous vous souvenez, c'était le dimanche de Pâques, le 21 avril dernier. Depuis, les tensions entre chrétiens et musulmans se multiplient. Hier, des chrétiens ont attaqué des magasins tenus par des musulmans à Shiloh, dans le nord-ouest du pays. Tout est parti d'un message posté par un commerçant sur Facebook. Ne riez plus, un jour vous allez pleurer. Des chrétiens y ont vu un avertissement sur une nouvelle attaque. Alors la foule a saccagé sa boutique, d'où la réaction des forces de l'ordre. Alors ici, c'est le porte-parole de la police qui annonce un couvre-feu dans la ville de Shiloh toute la nuit dernière pour mettre un terme donc aux émeutes qui ont explosé, dit-il. Mais ça n'a pas empêché une mosquée d'être vandalisée. Le couvre-feu a été levé aujourd'hui. Une réaction encore plus forte du gouvernement aujourd'hui, l'accès à Facebook, WhatsApp et d'autres réseaux sociaux a été bloqué pour éviter de propager d'autres messages de haine et d'autres fausses alertes. Rappelons que chrétiens et musulmans sont des minorités au Sri Lanka, pays bouddhiste avant tout, où l'on compte 10% de musulmans et 7% de chrétiens.
Et quand la science, tiens, veut se mêler de la religion, là aussi ça fait des étincelles.
Le gouvernement pakistanais en fait les frais depuis que son ministre des sciences, Fawad Chaudhry, a nommé un comité d'experts pour déterminer la date du début du Ramadan.
Science and Technology, the Ministry, we have made a decision.
Alors voici en train d'annoncer son nouveau comité composé de scientifiques, de météorologues et de l'agence spatiale pakistanaise. Le but, c'est de calculer les dates exactes du Ramadan pour les 5 prochaines années avec une précision de 100%, lance le ministre. Chaque année, on débat, on se divise au sein des musulmans pour savoir quand apparaît la nouvelle lune, coup d'envoi du mois du jeûne. D'ailleurs, il y a souvent un jour de décalage entre le Pakistan, le Maroc, le Qatar ou encore la France. Cette année, un chef religieux pakistanais a décidé que ça démarrait le 7 mai. Beaucoup d'autres pays ont commencé en fait la veille. La gestion du pays ne peut être laissée aux molana, aux religieux, s'énerve le ministre des sciences. Réponse outrée des religieux qui entre eux ne sont pas d'accord sur la nouvelle lune. Le ministre des sciences voulait les réconcilier. Pour l'instant, il n'a fait qu'ajouter de la polémique à la controverse.
Allez, on termine en Inde, Amélie, avec des eaux sacrées mais sacrément polluées aussi.
On connaît le Gange, hein. Vous savez, ce fleuve sacré de l'Inde où de nombreuses cérémonies ont lieu en permanence. Fleuve parmi les plus sales au monde aussi, comme le dit cette habitante.
On vient se baigner ici parce que c'est dans notre religion. C'est très important pour nous.
Ou encore ce scientifique interrogé dans un reportage d'Arte.
Il y a une trop grande concentration de matière fécale et il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Le fleuve se meurt. La pollution progresse tellement vite que si le gouvernement ne réagit pas rapidement, c'est sûr, le Gange disparaîtra d'ici 10 ans.
Alors aujourd'hui, le Guardian fait le récit de deux rivières. Ce Gange, autant révéré qu'impur. Et puis, la Chambal et ses eaux maudites, impies. Mais l'eau, là, y est saine. La Chambal, elle parcourt 500 km dans le centre et le nord de l'Inde. Des ravins, terrains difficiles, envahis par des bêtes féroces. Repères choisis aussi aujourd'hui par des gangs criminels. Entre peur et respect, une partie du fleuve a été déclarée sanctuaire national il y a 40 ans. Les agriculteurs autour ont utilisé ces ressources avec beaucoup de parcimonie. Conséquence, le Garial ou Gavial, cette espèce de crocodile en voie d'extinction, y a trouvé un espace pour revivre. On est passé de quelques centaines à plus d'un millier de spécimens. En revanche, c'est le pire qui attend le Gange si rien n'est fait. On l'entendait, le Premier ministre Narendra Modi a promis de le nettoyer d'ici l'an prochain. Malgré plus de 2,5 milliards d'euros investis, on en est encore loin. Le salut du sacré Gange viendra peut-être de la maudite Chambal, un sous-affluent. Les eaux pures de la Chambal en fait réduisent la contamination de la Yamuna lorsque les deux se rencontrent. Et quand la Yamuna se jette dans le Gange 200 km plus loin, et bien là l'effet est encore difficile à mesurer.
Amélie Perrier, entre plusieurs eaux donc ce soir.
Exactement.
Merci beaucoup Amélie, on se retrouve demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mecca, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est au Soudan que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Le Soudan, c'est le pays qu'on aime observer en ce moment parce qu'il vit son printemps. Il y a un mois, Les Soudanais ont mis fin aux 30 ans de règne de l'ex-président Omar el-Béchir. La jeunesse soudanaise était là dans les manifestations qui ont commencé par un triplement du prix du pain. On en avait parlé longuement dans Un jour dans le monde. La génération des moins de 30 ans n'a connu que ce régime autoritaire et depuis un mois, elle campe devant les grilles du quartier général de l'armée au milieu de la capitale à Khartoum. Bonsoir Martin Roux.
Bonsoir Fabienne.
Les jeunes maintiennent la pression sur le Conseil militaire de transition pour qu'il transfère le pouvoir à un gouvernement civil. On a appris d'ailleurs il y a quelques minutes qu'un accord sur un nouveau Conseil souverain allait remplacer le Conseil militaire actuellement au pouvoir. C'est ce qu'annonce un porte-parole des protestataires. Ces jeunes, en tout cas, ils sont là. Une sorte de sitting. Ils expérimentent à leur façon des libertés auxquelles ils n'ont jamais goûté.
Quelques pavés dessinent au sol une ligne de barricade. Le rassemblement se trouve juste derrière. Par ce chant, trois jeunes hommes invitent les manifestants à lever les mains en l'air. Ahmed Omar a 20 ans, il est en charge de la fouille au corps.
Je fouille les gens pour m'assurer qu'ils ne portent pas de couteau. Nous restons postés ici pour protéger la place et nos frères révolutionnaires contre les partisans de l'ancien régime. Ils veulent provoquer le chaos pour nous voler notre révolution et revenir au pouvoir. Mais nous ne pouvons pas rester chez nous. On tient la place et il n'y aura pas de retour en arrière.
Sur près d'un kilomètre carré, cette place de la Révolution est une petite ville avec ses commerces de rue et ses cafés improvisés. Venus du Darfour, des monts Nouba, du Nil Bleu ou du Nord, ici, les Soudanais se rencontrent et dans ce pays où la moitié des habitants a moins de 19 ans, la jeunesse est largement majoritaire. Près d'une centaine de tentes peuplent ce sit-in et devant chacune d'entre elles, une tribune. Abdallah Ibrahim Doud représente une organisation étudiante, les Jeunes pour la Révolution. À 24 ans, encore frêle dans un t-shirt bleu pétant, il harangue la foule du haut de son estrade.
L'espoir est à nous, à cette jeunesse, cette génération qui s'entête, qui est productive et salvatrice. Elle est prête à se sacrifier parce qu'elle est consciente des enjeux politiques.
Dès l'année 2010, l'économie s'effondre et les étudiants multiplient les manifestations dans les universités. Dans sa province du Nil Blanc, Abdallah est un activiste, mais pour la première fois sur ce sit-in, il s'exprime sans risque.
De toute ma vie, je n'ai jamais connu la démocratie parce que durant toute cette période, le parti d'Omar el-Béchir était au pouvoir. J'ai été emprisonné pour la première fois en 2017, seulement parce que j'avais pris la parole au nom du mouvement étudiant.
Même si le paysage a radicalement changé, les milices du régime contrôlent encore la capitale. Devant les immenses grilles du QG de l'armée, Omnaïm El-Nour reste cramponné à son mégaphone. Cette jeune trentenaire est en tête de cortège pour réclamer la destitution du Conseil militaire de transition.
Je suis là depuis le 6 avril et j'occupe cette place. Je dirige ceux qui sont plus jeunes que moi. Les jeunes de cette génération et nous les femmes, nous sommes unis et nous avons mené notre révolution jusqu'à la victoire. Nous exigeons un gouvernement civil et que les femmes occupent 50% des sièges. Et pourquoi une femme ne deviendrait-elle pas le prochain président ?
Combien empoches-tu Béchir quand tu fais couler le sang ? Dans ce morceau, le rappeur Ayman Mao dénonce la corruption et les crimes de l'ex-régime. Derrière les platines, Hachem Alala, originaire d'une banlieue pauvre de Khartoum, passe en boucle cet hymne de la révolution.
C'est le premier à rapper pour le pays. Ça n'existait pas avant. Tu peux aller dans n'importe quel quartier et tu entendras le rap de Ayman Mao. Ses paroles, ce sont celles de la jeunesse. Et avec cette chanson, il nous donne du courage.
Cette génération relève la tête et rêve aussi de prendre la relève, car le Soudan traverse sa troisième révolution depuis l'indépendance du pays en 1956. À 67 ans, Morsi Ibrahim les a toutes vécues.
Alhamdulillah, je vis jusqu'à maintenant pour voir où on a aussi débrassé d'un autre régime. Maintenant, la jeunesse, ils sont mieux conscients qu'avant, que nous. Ils vont continuer jusqu'à la fin. Je suis fier de ces gens. Ils sont mes enfants.
Exilé depuis 30 ans, Morsi Ibrahim vit en France avec ses trois enfants, devenu ingénieur, médecin et juriste.
Si mes enfants étaient au Soudan, ils n'auront pas la chance pour faire leurs études supérieures. L'ancien dictateur a détruit toute l'éducation.
Au cours des deux dernières années, le régime d'Omar el-Béchir a dépensé pour la sécurité près de 20 fois plus que pour l'éducation et la santé réunies. Sur le sit-in, Ali Makaoui a ouvert sa bibliothèque, un coin d'ombre sous une bâche tendue, un tapis à même la terre et des dizaines de livres en libre consultation.
Il y a des livres de sciences sociales et de sciences politiques. Des livres comme cela te montrent et te font comprendre que le régime était juste injuste et corrompu. L'ignorance des gens est à l'origine de beaucoup de problèmes. Et surtout, c'est la raison pour laquelle ils sont restés soumis pendant toute cette période. C'est une révolution des consciences.
Longtemps, le seul horizon pour la jeunesse était l'émigration. Mais au milieu de cette utopie révolutionnaire, l'expérience de la liberté permet enfin à Aïcha Abdelaziz, âgée de 24 ans, d'imaginer l'avenir au Soudan.
Cela fait 4 ans que je ne pense qu'à quitter le Soudan. J'attendais d'être diplômée pour partir du pays et j'ai travaillé très dur pour cela. Mais aujourd'hui, non, je ne quitterai jamais le pays parce que je me sens libre et je sens que je peux faire ce que je veux ici, dans mon pays. Alors pourquoi partir pour réaliser mes rêves ? Nous avons la foi, nous avons le pouvoir et nous croyons en nous. Vous seriez surpris de ce que peut accomplir le peuple soudanais.
Les révolutionnaires entendent lever leur camp uniquement après la formation d'un gouvernement civil. La nuit tombe sur la place et comme chaque soir depuis un mois, le sit-in se gonfle d'une foule déterminée.
Allez, Martin Roux pour le reportage au Soudan. Martin Roux de RFI pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Direction les États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 3 avec Grégory Phillips. Grégory, l'événement politique et diplomatique de ce jour à Washington, c'est la visite de Viktor Orban, Premier ministre hongrois à la Maison Blanche. La rencontre entre deux populistes alors.
Oui, et vous me direz peut-être aussi qu'à moins de 2 semaines des élections européennes, c'est quand même un drôle de signal de recevoir ici à la Maison Blanche l'un des dirigeants de l'Union les plus eurosceptiques, Viktor Orban, attendu d'ici 1 heure dans le bureau ovale. Ça faisait presque 15 ans qu'un dirigeant hongrois n'avait pas été invité. Faut dire que les deux hommes s'apprécient. Orban parle de Trump comme d'un phénomène, d'une icône, et les deux dirigeants se retrouvent sur pas mal de sujets, comme le protectionnisme, les discours antimondialistes ou encore les attaques contre la presse. Bref, ces deux-là ont tout pour s'entendre, et on verra comment ça se passe tout à l'heure dans le bureau.
Allez, et puis alors rien à voir avec Orban, Grégory, mais à l'étranger, Donald Trump a un autre ami, et on sait qui c'est, il s'appelle Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien.
Oui, et d'ailleurs, Bibi, comme l'appelle Donald Trump, a confirmé hier qu'une implantation sur le plateau du Golan porterait bientôt le nom de Donald Trump. Le lieu vient d'être trouvé.
I'm here on the beautiful Golan Heights.
Je suis ici sur ce magnifique plateau du Golan. Tous les Israéliens ont été très émus quand le président Trump a pris cette décision historique de reconnaître la souveraineté d'Israël sur ce plateau. J'ai donc demandé à mon gouvernement de donner à une nouvelle implantation le nom de Donald G. Trump.
Voilà Fabienne, une implantation qui portera ce nom de Donald J. Trump. Je peux pas encore vous dire comment s'appelleront les habitants. Et puis concernant cette région, vous savez que le gendre du président Jared Kushner prépare son plan de paix pour le Proche-Orient. Ça fait 2 ans qu'il y travaille. On devrait être fixé normalement assez rapidement car la Maison Blanche fait savoir qu'elle le dévoilera après le Ramadan, c'est-à-dire sans doute début juin.
Allez, comme presque tous les lundis, un œil sur la primaire démocrate qui désignera forcément l'adversaire de Trump en 2020. Une vingtaine de candidats sur la ligne de départ, ça on le sait. Et pour plusieurs d'entre eux, Donald Trump a déjà trouvé un surnom qu'il utilise régulièrement, voire exclusivement pour les désigner, Grégory.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a l'impression que Trump affuble ses adversaires d'un surnom à partir du moment où il commence à les prendre en considération et à les avoir dans sa ligne de mire. Alors voici une liste à peu près à jour. Pour Trump, Elizabeth Warren et Pocahontas, ouais, allusion assez peu fine, assez présumée, origine indienne. Bernie Sanders et Crazy Bernie, Bernie le fou, facile à traduire. Dans ses tweets ou meetings, enfin, Trump a rebaptisé Joe Biden Sleepy Creepy Joe. Alors là, je sais pas trop comment vous traduire ça. Il y a d'ailleurs un débat ici au sein des correspondants francophones à Washington, parce que Sleepy, ça veut dire endormi. Mm-hmm. Creepy, on pourrait dire quoi, dégueulasse. Allusion pas très fine non plus au fait que il y a quelques semaines, l'ancien vice-président a été accusé par au moins 2 femmes d'être un peu tactile. Alors, je sais pas, on pourrait traduire ça par dodo le vicieux ou, ou pervers pépère.
Dodo s'est déjà pris dans d'autres circonstances, souvenez-vous. Enfin bref.
Évidemment. Alors peut-être pervers pépère, mais on s'en amuse un peu. Mais imaginez si en France on se permettait de traiter un adversaire politique avec ce genre de surnom, qui plus est un ancien vice-président. Et puis le dernier à avoir été la cible d'une attaque de ce type, c'est Pete Buttigieg, rebaptisé par Trump Alfred Neumann. Alors, Fabienne, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alfred Neumann, c'est le nom de la mascotte du magazine satirique Mad dans les années 50. Je vous invite à vérifier sur internet. C'est vrai que le maire de South Bend lui ressemble un peu. Et ce week-end, quand on lui a demandé à Pete Buttigieg ce qu'il pensait de ce surnom présidentiel, et bien voici ce qu'il a répondu.
Pour être honnête, j'ai dû googliser ce nom. Je pense que c'est un truc générationnel. J'avais pas vraiment compris la référence. Oui, on va dire que c'est drôle. Mais bon, c'est le président des États-Unis. Je suis surpris qu'il ne soit pas plutôt occupé à négocier avec les Chinois.
Voilà, bim, la réponse d'un candidat démocrate de 37 ans à un président républicain âgé de 72 ans. Question de génération.
Voilà, et c'est vrai que nous aussi, on a été obligés de googler, en fait, pour voir qui c'était, mais la ressemblance, c'est un peu ça quand même. Allez, une femme à la Maison Blanche, enfin, Grégory, dans le bureau ovale, ça y est alors.
Oui, alors d'abord un mot aux auditeurs, si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode de la dernière saison de VIP sur HBO, débranchez quelques secondes parce que je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier soir. Dernier épisode de la 7e et dernière saison, formidable série où Julia Louis-Dreyfus interprète la vice-présidente Célina Meyer. C'est bon, vous avez coupé le son, quelques secondes. Ouais. Alors voici un extrait de l'épisode diffusé hier soir.
For President of the United States of America.
Eh oui, Célina Meyer, investie candidate à la présidence. Elle retrouve le bureau ovale qu'elle avait brièvement occupé dans les saisons précédentes. Fin de cette série qui aura duré 8 ans. C'est drôle, c'est mordant. Et ça disait, Fabienne, je sais que vous la regardiez, pas mal de choses sur la politique américaine.
Voilà, la fin de VIP avec une femme presque sur le trône de fer. Ça sert mes statistiques sur autre chose. Merci beaucoup, Grégory. À lundi prochain.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, plus personne n'en parle ou presque, hein, mais les naufrages de migrants continuent régulièrement en Méditerranée. Le dernier, c'était vendredi. 60 morts au large des côtes libyennes et tunisiennes. Et vous voulez nous en parler parce que ce naufrage est aussi invisible que révélateur et c'est votre monde à l'envers.
Oui, alors je sais, l'Europe a fermé ses frontières et fermé ses yeux d'ailleurs par la même occasion. Circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, on va regarder quand même parce que ce naufrage de vendredi nous dit plein de choses. Arrêtons-nous d'abord sur la nationalité des victimes. En majorité, elle venait du Bangladesh, en Asie, près de l'Inde. Pas d'Afrique noire ou du Moyen-Orient, comme on pourrait le penser spontanément, non, du Bangladesh, à plus de 9000 kilomètres d'ici. Imaginez le périple. En fait, on le connaît, ce périple, parce que 16 personnes ont survécu au naufrage. Et elle raconte, 6 mois ballottés depuis le Bangladesh, via Dubaï, dans le Golfe, puis Istanbul en Turquie, puis Tripoli en Libye, dingue. Et en Libye, les voilà récupérés par des passeurs, 3 mois dans des camps, sans pouvoir se laver, avec un seul repas par jour. Avant le départ final, de nuit dans un bateau, et le naufrage à 100 km des côtes italiennes, 8900 km plus tard. Et après avoir déboursé au total entre 7000 et 15000 dollars, soit 20 ans de salaire moyen au Bangladesh. Vous imaginez, toute la famille compte sur eux. Hein. Ce flux migratoire en provenance du Bangladesh, il est récent, il n'existait quasiment pas il y a 5 ans. C'est une émigration économique. Le pays est surpeuplé, 165 millions d'habitants sur un tout petit territoire, et il est confronté à un nombre croissant de réfugiés climatiques, 700 000 par an. L'exil s'opérait traditionnellement le sait vers le Golfe, employé dans le BTP hein, pour les hommes, employé de maison pour les femmes. La demande a baissé, beaucoup cherchent donc à rejoindre le Royaume-Uni où vivent 500 000 Bangladais. Tout ça pour dire que ce flux migratoire ne va pas s'arrêter, c'est le premier constat de ce naufrage.
Et vous soulignez, Jean-Marc, le fait qu'il passe par la Libye, et là il y a évidemment un lien avec la crise en Libye.
Et là encore, ce naufrage est révélateur. Ces migrants donc atterrissent en Libye parce que ce pays a longtemps été pour eux un débouché économique avec des emplois dans le secteur pétrolier et aussi parce qu'il leur est présenté comme le meilleur point de passage vers l'Europe. En Turquie en particulier, on n'hésite pas à les inciter à prendre l'avion vers Tripoli. Là, ils se retrouvent donc dans le chaos libyen, entre passeurs semi-esclavagistes et milices en guerre. Autant dire qu'ils n'ont qu'une idée, fuir. C'est d'ailleurs le cas aussi de nombreux Libyens eux-mêmes. En plus, depuis que la guerre a repris près de Tripoli, il est difficile de savoir comment sont utilisés les moyens alloués par l'Union européenne à la Libye pour gérer ces flux de migrants. Il est probable qu'une grande partie soit détournée à des fins militaires. L'ONU affirme redouter un exode vers la Tunisie voisine. D'ailleurs, le naufrage de vendredi s'est produit dans cette zone. Le bateau était parti de Zouara, à l'ouest de la Libye, tout près de la frontière tunisienne. Conclusion, deuxième enseignement de ce naufrage, le chaos lié à la guerre en Libye va probablement alimenter de nouveaux flux migratoires vers l'Europe.
Et enfin, cela dit, le flux a quand même fortement diminué, non, Jean-Marc ?
C'est vrai qu'il a fortement diminué depuis le pic de 2015, moins de migrants, mais le passage est devenu plus mortifère. Ça veut dire que la proportion de migrants qui laissent la vie sur ces embarcations de fortune ne cesse d'augmenter. Il est de plus en plus dangereux de traverser la Méditerranée. Et là encore, le naufrage de vendredi est révélateur. Que s'est-il passé ? Les migrants ont d'abord embarqué sur un bateau de taille moyenne. Et une fois en mer, ils ont été transférés sur un canot pneumatique surchargé. Un bateau beaucoup plus petit. Pourquoi ? Pour échapper aux gardes-côtes libyens et italiens. Et le bateau a coulé. On est en présence d'une stratégie d'adaptation, si vous voulez, des passeurs au durcissement de la politique frontalière. Résultat, des morts en plus. Officiellement, on en est, depuis le début de l'année, à 500 morts en Méditerranée. En réalité, on ne sait pas. On ne sait plus. Pourquoi ? Parce que d'un côté, les ONG sont chassées des eaux, il ne reste que un ou deux bateaux en activité. Et de l'autre côté, l'opération maritime européenne officielle, SOFIA, a déserté depuis deux mois cette partie de la Méditerranée. En l'occurrence, les rescapés de ce week-end, ils ont juste eu un gros coup de chance. Il y avait des pêcheurs tunisiens à proximité. Sans ça, personne n'aurait jamais rien su de ce naufrage. Et c'est là le dernier enseignement. Cette tragédie des migrants est devenue invisible.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Merci beaucoup Jean-Marc. Tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. À demain. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. Ne bougez pas. On s'occupe de tout.